Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, l'Union européenne est incarnée de façon multiple. Pour les Européens, y a-t-il une incarnation institutionnelle qui l'emporte sur les autres ?
En Union européenne, il y a en effet plusieurs numéros de téléphone correspondant à plusieurs présidences d'institutions européennes. La plus anciennement installée, et à ce titre la plus connue, est la présidence de la Commission européenne. La Commission européenne a une présidence désignée par le Conseil européen, c'est-à-dire chef d'État et de gouvernement, et approuvée par le Parlement européen. La présidence de la Commission européenne bénéficie d'une forte visibilité, car outre la durée, 5 ans renouvelable, elle possède les fonctions de patron du Collège des commissaires. À partir des propositions des gouvernements nationaux, elle compose le Collège des commissaires, détermine pour chacun d'eux le domaine de responsabilité, le portefeuille, et en définit les missions. Elle fixe les orientations politiques de la Commission. Elle convoque et préside les réunions hebdomadaires du Collège des commissaires, au sein duquel, lors des votes, elle n'a cependant pas de voix prépondérante. Elle dirige les travaux réalisés par la Commission pour mettre en œuvre les politiques de l'UE. Elle représente l'institution lors des réunions du Conseil européen sans droit de vote, lors des grands débats au Parlement européen et au Conseil des ministres. Elle contribue aux grands débats, donc au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, entre les gouvernements des États membres. Enfin, elle représente aussi l'Union à l'extérieur, en participant aux réunions du G7 et du G20 et aux sommets bilatéraux.
Avec de tels pouvoirs, la présidence de la Commission est sous les projecteurs de façon continue. Certains présidents ont-ils mieux réussi que d'autres ?
Alors depuis 1958, date de la mise en place des institutions européennes, 14 personnalités se sont succédées à la présidence de la Commission. Pourtant, l'institution n'a acquis le relief qu'on lui connaît aujourd'hui que dans les années de l'or. À la tête de la Commission, de 1985 à 1995, Jacques Delors a su créer une dynamique et construire un bilan politique impressionnant. Acte unique en 1986, traité de Maastricht et Union économique monétaire en 1992, politique de la jeunesse avec Erasmus, politique de cohésion régionale, dialogue social, etc. Jacques Delors a présidentialisé la fonction au point d'être considéré à l'époque par les chefs d'État et de gouvernement comme un des leurs, et par l'opinion publique européenne comme le président de l'Europe. Le successeur de Delors, le luxembourgeois Jacques Santer, choisi pour partie en réaction à l'activité delorienne, poursuit néanmoins dans les traces de son prédécesseur. Préparation du passage à l'euro, agenda 2000 pour une union plus forte et plus large. Cependant, les relations dégradées avec le Parlement, de plus en plus critiques du fonctionnement de la Commission, provoquent une crise institutionnelle qui débouche au printemps 1999 sur la démission de la Commission Santer. Durant les 5 années suivantes, Romano Prodi s'attache à restaurer la crédibilité de la Commission. Passage à l'euro, grand élargissement. Mais son entreprise bute sur plusieurs obstacles, la division des États, leur méfiance à l'égard de la Commission, une gouvernance contestée. Au total, un bilan plus que mitigé.
Le président suivant a-t-il réussi à rendre son lustre à la Commission ?
En 2004 débute la présidence de Manuel Barroso. Elle va durer 10 ans. Né en 1956 à Lisbonne, José Manuel Barroso est diplômé de droit, d'études européennes de l'Institut universitaire européen et de sciences politiques et sociales. Militant d'extrême gauche, luttant contre l'Estado Novo de Salazar, il mène par la suite une carrière universitaire avec des séjours de recherche aux États-Unis. En 1980, il est élu député du centre droit et en 1985, il entame une carrière ministérielle. Après cette année passée dans l'opposition, il devient Premier ministre portugais en 2002. En juin 2004, il est désigné président de la Commission, soutenu par le PPE. Durant sa présidence, il affronte des crises profondes. Crise institutionnelle, suite au rejet du traité constitutionnel en 2005 et traité de Lisbonne. Crise financière de 2008 et question du maintien de la Grèce dans la zone euro. Durant son second mandat, tout en privilégiant les dossiers économiques et financiers, il avance de nouvelles problématiques, comme la lutte contre le changement climatique. Mais globalement, il se met au service des États, beaucoup plus qu'il ne les bouscule.
Alors, le successeur de José Manuel Barroso a-t-il réussi à échapper au rôle de secrétaire bis du Conseil européen ?
Le successeur de Manuel Barroso, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, est né en 1954. Après des études de droit, il devient avocat en 1980, mais n'exerce pas. Inscrit à 20 ans au Parti chrétien social, il gravit rapidement les échelons au sein de son parti. Devenu parlementaire et ministre à 30 ans, il affiche de fortes convictions européennes. Premier ministre de 2005 à 2013, il préside l'Eurogroupe, soit la réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États membres de la zone euro. En 2014, il devient le président d'une commission plongée dans une polycrise. Crise ukrainienne, Brexit, Trump 1, crise migratoire. Il enregistre des succès. Le plan Juncker, InvestEU, pour la relance européenne et industrielle en Europe, la fin du secret bancaire, le socle des droits sociaux, le maintien de l'unité des 27 face au Brexit. Si la commission Juncker a été fort entreprenante, son président n'a pu résister à la montée des égoïsmes nationaux qui ont réduit sa marge de manœuvre dans de nombreux dossiers, dont celui des migrations. En 2019, Ursula von der Leyen succède à Jean-Claude Juncker. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, une femme exerce la fonction de chef de l'exécutif européen. Après un premier mandat, elle est reconduite en 2024. Nous verrons, Yann, peut-être cela à la rentrée. En attendant, je vous souhaite ainsi qu'à tous les auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année.